Au quotidien, avec Hélène Denis.
Juillet, avant-dernier jour du mois de juillet, puisqu'on a 31 jours en juillet. Et le 30 juillet, c'est la Journée internationale de l'amitié. Êtes-vous mon ami, Maurice?
Toujours.
Oui, toujours. Alors, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui a proclamé le 30 juillet comme étant une journée de l'amitié pour rappeler que l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus inspire les efforts de paix et offre l'occasion de jeter des ponts entre les communautés. Et à l'occasion de cette journée, Parrainage civique Montréal souhaite mettre en lumière une réalité encore trop méconnue, les amitiés qui naissent entre des bénévoles et des adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. L'organisme communautaire favorise l'intégration et la participation sociale de ces adultes grâce à des jumelages d'amitié durable avec des bénévoles engagés. Au fil des mois et des années, ces jumelages dépassent le cadre du bénévolat pour devenir de véritables relations d'amitié qui brisent l'isolement, favorisent l'inclusion sociale et enrichissent la vie des deux personnes. Alors, vous pouvez découvrir quelques portraits de jumelage en allant à parrainagemontréal.org/portrait. Et j'ai déjà aussi reçu deux personnes, une filleule et sa marraine à cette antenne. Alors, vous pouvez faire une petite recherche en allant sur notre site à canalem.vusezvoix.com. Bonjour, Yvan.
Bonjour, Hélène.
Votre dernière aujourd'hui avant les vacances pour vous?
Oui, courtes vacances, mais vacances très appréciées quand même.
Oui, hein, vous allez vers un pays que vous aimez beaucoup.
Oui, un pays où le temps prend une autre dimension. On n'a pas besoin de s'en soucier à ce temps.
Ah, je veux y aller. Bon, bien, Yvan, on va profiter de votre présence aujourd'hui. Vous avez pas mal de choses à votre menu. Vous allez parler, entre autres, de vélo. Quand le vélo rend malheureux, c'est un drôle de titre.
C'est un drôle de titre. Mais c'est un bel article, vous allez voir. C'est à propos d'une jeune athlète. On pense vraiment que les jeunes athlètes, peu importe le sport, ce sont des gens un peu privilégiés par la vie parce qu'ils ont un talent particulier, parce qu'ils voyagent à travers le monde, parce que. Et là, on va voir quelqu'un qui avait tout ça, mais ça s'est mis à dérailler. Autant physiquement que psychologiquement, et elle est retombée sur ses pattes, vous allez voir.
Tant mieux, ça finit bien cette histoire.
Oui.
À tantôt. On aura aussi une chronique sur le camping accessible avec Simon April, qui est responsable de la formation et de la défense des droits chez Kéroul. Kéroul, qui est un organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la culture accessibles à tous et à toutes selon les principes de l'accessibilité universelle, de l'inclusion et du tourisme durable. Et de la belle visite, celui qui sera aux commandes de cette émission pendant tout le mois d'août, et j'ai nommé Denis-Martin Chabot. Denis-Martin qui a plein de chapeaux, hein, qui a plein de talent, auteur, journaliste, animateur à Canal M. Il viendra nous présenter son plus récent livre qui s'intitule « Vintage, friperie de souvenirs ». Alors voilà pour le menu de cette journée du 30 juillet et on ouvre avec une nouveauté, celle de Marie M.
Solo, solo, dis-moi juste ce que tu veux.
Ouais, je connais bien son là. Je me tiens loin maintenant. Je suis pas à la place où on s'est rencontrés. Ouais, est-ce que t'as tant rêvé de faire du cash, cash, cash pour enfin te faire la malle, faire la palette. J'entends pop, 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 ça pète dans le monde entier. Tu vois de quoi je parle. Dis-moi juste ce que tu veux. T'inquiète, moi j'ai la pêche. Si tu veux que tu fais, t'inquiète, moi j'ai la mèche. Si tu veux que ton corps parle avec mon corps, alors on est d'accord. Viens, je t'emmène. On a
One Love par Mariem.
À la une de la presse, on aurait pu la retrouver morte. L'ampleur de la crise des surdoses, ça commence à faire peur, lance un paramédical que la presse a accompagné durant une soirée mouvementée. Le texte de Chloé Bourquin décrit une soirée de travail de Joshua Arruda Aguiar, chef aux opérations à urgence santé, marquée par une série d'interventions liées à des surdoses. Parmi les 8 cas rencontrés, une jeune femme ayant consommé du fentanyl s'effondre dans un stationnement. Comme elle respire encore normalement, les paramédicaux ne lui administrent pas de naloxone, mais la transportent à l'hôpital par précaution. Selon Arruda Aguiar, quelques minutes de plus auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Au cours de son quart de 17h à 5h du matin, il intervient auprès de plusieurs personnes inconscientes ou semi-conscientes, dont certaines refusent de révéler ce qu'elles ont consommé ou elles refusent de se rendre à l'hôpital. Les paramédicaux cherchent surtout à obtenir des informations sans jugement afin de mieux les soigner. Ils peuvent aussi proposer aux personnes intoxiquées de les accompagner vers une ressource où elles pourront passer la nuit en sécurité. Bref, le reportage montre l'ampleur de la crise des surdoses au Québec et le travail des services d'urgence qui doivent intervenir rapidement tout en établissant un climat de confiance avec des personnes qui sont souvent vraiment vulnérables. Et il y a aussi un autre texte, cette fois signé Éric Martel, qui raconte le parcours de Kim Lavoisdionne, qui a connu une dépendance sévère aux opioïdes à la fin de l'adolescence après avoir vécu de l'intimidation et plusieurs périodes difficiles en centre jeunesse. Elle commence à consommer de l'oxycodone pour se sentir acceptée par ses pairs. Et en quelques mois, sa consommation entraîne des surdoses, des hospitalisations. Une surdose particulièrement grave la plonge dans le coma et lui fait perdre une grande partie de son audition. Elle est devenue malentendante. En 2025, après une nouvelle surdose, elle décide d'entreprendre un traitement au Suboxone. Et aujourd'hui, elle témoigne pour sensibiliser au danger des opioïdes et encourager les consommateurs à ne pas rester seuls face au risque de surdose et à prévenir un proche ou demander de l'aide. Un autre titre à la une de la presse, on en parle partout et on la voit partout aussi, cette photo, faire l'autruche pendant que le monde brûle. Une photo du photographe français Maximilien Lamy montrant des vacanciers profitant de la plage alors qu'un immense incendie fait rage de l'autre côté du plan d'eau est devenue virale. Cette image, décrite comme un instantané de l'apocalypse, symbolise pour plusieurs l'apparence indifférente de nos sociétés face à l'urgence climatique. Le photographe précise qu'il ne juge pas les vacanciers qui peuvent eux-mêmes être sidérés ou inquiets. Mais l'image soulève une question plus large. Sommes-nous en train de nous habituer aux catastrophes climatiques au point de les considérer comme normales? Karel Mehran de la Fondation familiale Trottier dénonce surtout l'inaction des décideurs politiques et économiques. Selon lui, les incendies, les inondations, les tempêtes, la mauvaise qualité de l'air ne sont plus des événements exceptionnels, mais des réalités qui reviennent chaque année. Il estime que continuer dans la même direction est une folie pure. À la une du Devoir maintenant, un jugement fait craindre une baisse du nombre de RPA. Il pourrait y avoir moins de résidences privées pour aînés dans un avenir prochain à Montréal. La Cour supérieure vient d'invalider tous les règlements municipaux adoptés par des arrondissements de la métropole pour empêcher les RPA d'être convertis en immeubles d'appartements sans service. 167 dans les 10 dernières années, le nombre de RPA Montréal est passé de 217 à 167, une perte de 50 résidences. Mais selon les chiffres de Santé Québec, le nombre d'unités locatives en RPA serait demeuré stable durant cette période à environ 25 000 sur le territoire. Et une photo de Samy Landry qui met le monde à ses pieds dans le cadre de Fierté Montréal qui s'ouvre demain. La drag queen doublement vue dans Canada's Drag Race se produira au festival Montréalais. Et je termine avec la une du Journal de Montréal. Des fichiers compromettants refont surface, allégations de corruption en Terrebonne. L'ex-maire Jean-Marc Robitaille aurait notamment effectué des séjours dans une pourvoirie. L'ex-maire et ses collaborateurs ont beau avoir échappé à leur procès criminel, ils n'en ont peut-être pas fini avec la justice. La ville aura accès à la preuve amassée par l'unité permanente anticorruption afin de l'aider dans ses poursuites civiles pour récupérer l'argent des contribuables. Vous avez des informations au sujet de malversations dans les municipalités ou en lien avec des contrats publics? Vous pouvez écrire, vous pouvez contacter en toute confidentialité le journaliste qui signe ici l'article. Il s'appelle Jean-Louis Fortin. Son adresse jean-louis.fortin@quebecormedia.com. Et Carney abdique devant les géants américains. Un été à baisser les bras, la chronique de Guillaume Saint-Pierre, pieds et poings liés par Guy Fournier. On parle ici des géants américains comme Netflix, Disney+, ou Prime Video.
Le paysage s'ouvrira sur nous, une main au volant, l'autre sur tes genoux, je prendrai mon élan. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire à 100 000 à l'heure, je t'en ferai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs. Viendra, nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleue à ciel ouvert. J'irai chercher là-bas jusqu'au diable Vauvert tous les étés de l'univers. Pour toi, nous irons faire l'amour sous des soleils de feu quelque part où le ciel est bleu. Toujours, et si la terre est ronde, nous roulerons autour vers l'autre bout du monde. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire à 100 000 à l'heure, je t'en ferai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été.
Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur mon front brûlant, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants.
Steve Fizet, Les chemins d'été.
Oui, une vraie belle chanson pour se promener en décapotable. Et parlant voiture et les automobilistes, on se calme. C'est la chronique de Mario Girard. Je ne vous la lirai pas au complet, là, parce que c'est l'espace-temps pour notre ami Yvan Deslauriers. Mais juste pour vous donner envie de lire cet article qui vaut le détour, suis-je le seul à voir cela, dit-il, écrit-il? L'impatience des automobilistes atteint un sommet. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne me suis jamais fait autant klaxonner, dépassé ou collé au derrière et pourtant mes habitudes de conduite n'ont pas changé. Et plus loin, il écrit « Il y a derrière ces comportements quelque chose qui va au-delà de l'empressement, plutôt une manière d'exprimer une supériorité. D'ailleurs, plusieurs études montrent que la plupart des conducteurs ont le sentiment d'être meilleurs que tous les autres. Et quand on se fait dépasser par quelqu'un qui nous crie « Hostie de moron, va apprendre à conduire », c'est difficile après ça de chantonner dans ma Camaro, je t'amènerai sur tous les chemins d'été qu'on vient de vous offrir et j'espère que vous l'avez écouté avec le sourire aux lèvres, avec plaisir, peut-être dans votre auto également. Alors, vive la civilité qui se perd, on dirait. Yvan, vous l'avez lu, j'imagine, hein?
Juste le premier paragraphe.
OK. Bon, alors, vous prendrez le temps de lire sa chronique.
J'ai des matinées un peu...
rock and roll.
Un peu intense de ce temps-ci, alors... Bon. Je lis beaucoup, mais en diagonale.
Alors, cet article-là, je pense que vous ne le lirez pas en diagonale parce que vous allez l'offrir à nos auditeurs. « Quand le vélo rend malheureux », texte de Simon Drouin qui a été publié dans la Presse Plus.
Oui. Et on a toujours un pincement au cœur quand on voit, en guillemets, des belles jeunesses, des jeunes athlètes qui devraient avoir du plaisir dans leur sport et devraient bien performer. Quand ça dérape, c'est toujours un petit peu triste. Et l'histoire que je vais vous raconter a une belle fin. Alors, mais c'est important de regarder le parcours. Donc, on parle de vélo qui rend malheureux. Et l'article s'intitule « Je ne me sentais pas bien dans ma tête ». Ça a été écrit par Simon Drouin. Ça a été publié dans la presse et je ne vois pas la date.
Mais c'est écrit hier à 5 heures, donc ça doit être le 29 juillet.
Peut-être
que oui.
Comme j'ai mis ça avant, mais c'est pas grave.
Ben c'est ce que je lis en tout cas, publié hier à 5 heures.
Bravo. Alors, la cycliste Pascale Savard savait que quelque chose ne tournait pas rond quand elle s'est mise à saigner du nez dans la deuxième étape de la classique Redlands en Californie, le 4 avril. Ce symptôme s'ajoutait à une série d'autres qu'elle éprouvait en course depuis au moins un an. Engourdissement dans les bras, perte d'équilibre, palpitations, des investigations en cardiologie n'avaient pas permis de déterminer ce qui l'affligeait et semblait nuire à son rendement sur le vélo. Elle dit « Je ne me sentais vraiment pas bien. Je pleurais beaucoup. Je demandais à mes coachs, à mes parents, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je ne suis pas capable de performer autant qu'avant? » La pression montait afin de se qualifier pour les championnats du monde de Montréal, son grand objectif à sa deuxième année junior. La Westmontaise, alors âgée de 17 ans, a donc décidé de remonter en selle pour la troisième étape à Redlands, un critérium de 69,5 km. Donc, c'est un circuit urbain qu'on fait en boucle là, un certain nombre de fois. Elle l'a fini, mais loin derrière, sur les genoux. Elle dit « Les symptômes empiraient. J'ai réussi à m'arrêter à l'attente paramédicale, mais c'est là que j'ai perdu connaissance. » Elle s'est réveillée à l'hôpital et y a passé 2 jours. Une batterie de tests ne lui a pas fourni plus de réponses sur l'origine de ses maux. Elle raconte « Je me souviens d'avoir versé une petite larme parce que j'étais comme je ne suis pas assez écoutée, j'ai juste continué malgré mes symptômes. En même temps, j'étais un peu fâchée. Ça faisait déjà un an que j'essayais de comprendre ce qui se passait. C'était de l'incompréhension et de l'incertitude. Ce n'est qu'à son retour au pays que les causes de son état se sont éclaircies. Une cardiologue lui a diagnostiqué une tachycardie auriculaire. Ça, c'est un trouble du rythme cardiaque qui provoque une accélération anormalement rapide des battements du cœur. Une opération à l'Institut de cardiologie a permis de régler le problème à la mi-mai. C'est vraiment un miracle, avoue-t-elle. Théoriquement, elle aurait pu reprendre la compétition un mois plus tard. Mais il n'y avait pas que ça. Ses contre-performances de la dernière année, combinées à l'arrêt soudain d'un sport qu'elle pratiquait intensément depuis l'âge de 12 ans, ont eu un autre effet, moins visible, plus insidieux, mais pas moins réel. Elle raconte « Je ne me sentais pas bien dans ma tête. Ça faisait beaucoup que j'encaissais mentalement. J'ai dû prendre la décision d'arrêter ma saison. C'est aussi à ce moment-là que je suis tombée en dépression. » Ses journées se résumaient à aller à l'école. Elle étudiait en sciences humaines au cégep et à rentrer à la maison pour dormir le plus longtemps possible. Je ne voyais plus mes amis, un peu mon copain. Je mangeais très, très peu. La majorité du temps, je restais seul, je dormais pour essayer d'arrêter les pensées qui tournaient dans ma tête. Substitut pour les championnats du monde au Rwanda l'an dernier, elle s'était entraînée tout l'hiver dans l'espoir de participer à ceux de Montréal qui se dérouleront pratiquement dans sa cour arrière en septembre. Après 10 ans de ski alpin de compétition, son identité s'était construite autour du vélo. Elle dit « C'est un sport d'endurance. Tu t'entraînes plusieurs heures par jour. Tu manges, tu dors, tu agis en conséquence. C'est sûr que quand tu arrêtes, c'est déstabilisant. Tes amis sont dans le vélo. Tes objectifs tournent autour de ça. C'était vraiment une perte de repères, d'objectifs. Quasiment une perte d'identité. Sur les réseaux sociaux, elle voyait ses rivales continuer à performer. La pression montait en même temps que l'anxiété et la perte de confiance. L'idée que les autres sachent qu'elle faisait une croix sur sa saison et les mondiaux la perturbait. « J'avais de la misère à aller chercher de l'aide, à assumer que le vélo me rendait aussi malheureuse. C'était tellement mon objectif, tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et là, ça me rendait dépressive. C'était dur. » Son copain, un ancien cycliste, l'a incité à parler à ses parents. Ils étaient super ouverts avec ça. Ils m'ont pris en charge. J'ai une famille très aimante, 2 grandes sœurs qui m'ont aussi aidé. Sa mère lui a trouvé un psychiatre. Pascal Savard n'oubliera jamais la date de son diagnostic de dépression majeure. 15 avril. Veille de son 18e anniversaire. Honnêtement, c'était une espèce de soulagement. D'avoir un diagnostic et de me dire « Ok, je suis en dépression. Voici les ressources que j'ai et voici comment je peux guérir de tout ça. » Ça a été un choc, mais en même temps, comme un poids enlevé de mes épaules, de pouvoir mettre un mot sur cette souffrance. 3 mois plus tard, elle va mieux. De la thérapie et de la méditation l'ont aidé à traverser la tempête.
La méditation peut-être, mais surtout de la médication, c'est le mot que je suis en train de lire.
Vous avez tout à fait raison. Merci. Elle dit, il y a eu un bon 2-3 semaines où je ne pensais pas m'en sortir. Tu sors de la dépression tranquillement. C'est un pas devant l'autre. Ce sont des journées ensoleillées, des journées pluvieuses. Mais je suis tellement reconnaissante envers les gens qui m'ont soutenue, spécialement mon copain. Ça fait une énorme différence. Pascal Savard ne sait pas si elle reprendra la compétition l'année prochaine. Les études la passionnent. La psychologie l'intéresse beaucoup, comme l'écriture. Elle a donc pris la plume et raconté son histoire. elle a envoyé un témoignage à la presse dans l'espoir de sensibiliser de jeunes athlètes qui pourraient vivre une expérience semblable. Elle les encourage à demander de l'aide. Je trouvais qu'on ne parlait pas assez de la santé mentale des jeunes athlètes. On parle parfois de la santé mentale des coureurs qui font le Tour de France, que c'est difficile, tout ça. Mais les jeunes athlètes qui ont toute cette pression d'avoir des contrats pro, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Elle continue de rouler, mais pour le fun. Cette semaine, avec son copain, elle entreprendra une traversée de la Gaspésie à la marche, en autosuffisance. Il n'y a aucune performance, aucune pression. Je peux arrêter quand je veux. Il n'y a aucun stress autour de ça. Elle souhaite être présente au championnat du monde, mais sur le bord de la route pour encourager ses amis. Donc, c'était un article qui a été écrit par Simon Drouin. Je ne me sentais pas bien dans ma tête à propos du parcours de Pascal Savard. Dans le même article, il y a un deuxième onglet qui parle particulièrement du Tour de France. Ça s'appelle « Trop jeune pour tout sacrifier au vélo » sous forme d'une question. Et là, on se pose la question, à quel moment on devrait insérer les jeunes dans ce type de compétition-là? Et il y a un coureur qui s'appelle Varen Barguil, qui était double vainqueur d'étape au Tour de France, qui dit « Je suis inquiet pour les jeunes qui vont arrêter l'école de bonne heure. Leur cercle social se résume au vélo. Ils n'ont pas d'amis ailleurs. Si du jour au lendemain ça s'arrête, ils pourront se reposer sur quoi? » Alors, ces propos résonnent auprès de Pascal Savard, qui dit connaître beaucoup de cyclistes qui ont malheureusement arrêté l'école pour se consacrer au vélo et tenter d'accéder au rang professionnel. Alors, c'est vraiment... On regarde ça dans le domaine du vélo, mais j'imagine qu'il doit y avoir des histoires semblables dans plusieurs autres sports où on s'aperçoit qu'une personne a des talents particuliers et soudainement, il ou elle consacre tout sur ce sport-là. Et si ça dérape, ben là, il y a des gros problèmes.
Oui, et la compétition, c'est pas fait pour tout le monde. Et comme vous le lisiez à propos de cette fille, Pascal qui? Savard?
Pascal Savard, oui.
Elle était bien entourée et c'est ce qui lui a donné comme l'élan pour s'en sortir. Et les mots aussi qu'il faut retenir, c'est plaisir et pas de stress, s'il vous plaît.
Oui, surtout merci. Quand on est tout jeune, quand même.
Oui. Merci, Yvan, vous restez avec nous pour encore un quart d'heure.
Quelques brèves, oui.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Il y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête, il y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Il y a des jours sans rire et sans soleil, des jours où l'on comprend que tout ira plus mal que la veille. Des jours où l'on apprend, il y a des jours sentiments mais sans plaisir, des jours où l'on voudrait partir, sentir un peu d'amour et de douceur ces jours. Je les connais par cœur. Il y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête. Il y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Il y a des jours sans et des jours qu'on aime. Des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes, on devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans. Avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans. Avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Il y a des jours où tout est possible, où tout devient facile. Des jours avec une bonne étoile, où rien ne pourra finir mal. Des jours avec mes deux gamins, à plus penser à rien, des dimanches matins, des matins de plaisir, où on pourra dire, il y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête, il y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Il y a des jours sans et des jours qu'on aime. Des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes, on
monde devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Et si le monde est beau, et si le monde est grand, ce sera un jour avec. Et si le ciel est gris et que le monde attend, ce sera un jour sans. Il y aura des gens aigris et des gens aimants. Là sous ma fenêtre, on fera mieux qu'hier et moins bien qu'aujourd'hui. Et toujours de l'avant. Il y a des jours sans et des jours avec. Avec ou sans. Il y a des jours sans qui deviendront peut-être. Avec ou sans. Il y a des jours sans et des jours qu'on aime. Avec ou sans. Tellement puissant face à nos problèmes. Avec ou sans.
Avec ou sans, par Jérémy Frérot.
Avec Yvan, on va en profiter, hein, puisqu'Yvan, la semaine prochaine, vous n'y serez pas. Pendant quand même quelques semaines, vous serez absent en vacances et aussi au travail.
Oui.
Alors, des brèves avec vous. L'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, qui a une belle activité à offrir.
Je vous ai souvent parlé de leurs activités de tandem. Celle-là, c'est une activité de tandem, mais dans un lieu vraiment particulier. Ça se passe le 8 août. Le départ a lieu du Centre culturel et communautaire au 12... c'est pas écrit de quel... Donc, ça doit être celui de Montréal-Nord, j'imagine. 12-225 rue Grenet. Je vais faire une petite recherche rapide tantôt pour voir. Donc, on part de là à 8h30. Le retour est prévu à 16h. Pour l'inscription, vous communiquez avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. OK, j'arrête de vous titiller. Le samedi 8 août, c'est une sortie vélo un peu spéciale qui est placée sous le signe du plaisir, de la découverte et des beaux kilomètres, et j'insiste sur le beau dans ce cas-ci. Ils vont partir en REM jusqu'à l'île des Sœurs. De là, ils vont prendre la direction, ils vont enfourcher leur tandem et ils vont prendre la direction de l'estacade. Vous savez, l'estacade, c'est comme une espèce de petit pont qui est en parallèle avec le pont Samuel de Champlain. Ça permet de traverser une partie du fleuve, puis de rejoindre la piste cyclable de la voie maritime qui est en direction du récréoparc de Sainte-Catherine. Alors, la piste cyclable, la voie maritime, c'est en même direction que le fleuve. Alors, quand on roule là-dessus, on a l'impression d'avoir, on n'a pas juste l'impression, on a de l'eau à sa droite puis on a de l'eau à sa gauche. C'est vraiment une langue de terre qui est dans le fleuve. Et ce qu'il y a de particulier maintenant, c'est que c'était de la petite roche auparavant, mais ça a été resurfacé. C'est maintenant un bitume qui est lisse à souhait. Alors, une fois rendu à Sainte-Catherine, là, on va prendre le temps de prendre des forces, de se rafraîchir. Comme je les connais, ils vont prendre une crème glacée parce qu'ils en prennent tout le temps. Et après cette pause, ils vont revenir par la même piste, mais au lieu de s'en retourner vers l'île des Sœurs, ils vont prendre la direction du circuit Gilles-Villeneuve. Et là, ça, c'est intéressant comme endroit pour rouler à vélo. Surtout qu'on ne s'en aperçoit pas, mais c'est pas plat. Il y a plein de montées et de descentes. C'est vraiment très intéressant. Alors, ceux qui connaissent déjà le trajet remarqueront que cette portion de la voie maritime a également été asphaltée en prévision du championnat du monde de cyclisme qui va avoir lieu en septembre. Une fois sur le circuit, ils vont en profiter pour faire un tour complet, sans oublier de pousser un peu plus fort pour ceux qui le voudront bien. Et au retour, toujours par la voie maritime, ils feront une autre pause sous le pont Champlain avant de reprendre l'estacade et d'aller chercher le REM pour s'en revenir. Alors, c'est vraiment une très, très belle activité. Alors, si ça vous intéresse, vous communiquez avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain.
Maurice a fait une recherche, le lieu que vous cherchiez, Centre culturel et communautaire de Cartierville.
Ah oui, c'est vrai, ça a beaucoup de sens.
Là, on s'en va aux îles de la Madeleine. Vous nous apprenez que c'est la 40e et dernière édition du concours des châteaux de sable et des îles de la Madeleine. C'est bien triste, ça.
Oui, je le savais d'ailleurs. C'était connu depuis un petit bout là, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui se passe aux Îles-de-la-Madeleine et cet événement-là en particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le concours des châteaux de sable. C'est un événement qui a marqué la connaissance des îles de la Madeleine parce que pendant longtemps, ça a été un concours international. On faisait venir des gens de un peu partout dans le monde. Et c'est là que j'ai appris que faire un château de sable, c'est pas prendre un petit seau, puis prendre du sable, puis le mettre, puis monter un château. C'est de faire une grosse butte de sable. C'est vraiment la première chose qu'ils doivent faire, c'est de faire leur butte. Puis après ça, ils ont des gicleurs d'eau pour garder le sable un peu humide. Et à l'intérieur de la butte, il y a une sculpture. Et c'est aux artistes de pouvoir sortir la sculpture de l'intérieur de la butte. Alors, c'est vraiment, vraiment très intéressant à faire. Bon, moi qui n'ai pas artiste du tout, je comprenais le principe, mais je ne réussissais jamais à faire quelque chose d'intéressant. Mais donc, ça se passe pour une dernière fois, après 40 ans, au mois d'août, du 7 au 9 août.
Alors, allez-vous être là, oui?
Oui, je vais être là, pas spécialement pour ça, mais c'est sûr que je vais aller faire un tour. La fin de l'événement avait déjà été annoncée l'an dernier. L'essoufflement des bénévoles, le retrait d'un important commanditaire et les enjeux écologiques liés à la protection des dunes figurent parmi les raisons de cet arrêt.
Bon.
Mais la présidente de l'événement de cette année, Mme Godet, souligne avoir bon espoir de pouvoir tenir la 40e et dernière édition du 7 au 9. L'équipe a pu récolter des fonds grâce à une campagne menée auprès du public et d'entreprises.
Ah, c'est pas encore officiel.
Oui, mais comme je connais les Madelinos, ça va se tenir. J'ai déjà vu des années où la fin de semaine était pluvieuse, mais il y a quand même eu le concours des châteaux de sable. Le thème de cette année, c'est Gaïa. Terre, mer, gratitude et retour à la nature. Ce choix fait écho à la nécessité de protéger la nature et l'environnement des îles de la Madeleine, comme l'explique la présidente du conseil d'administration. En 40 ans, le festival entourant le concours de sable a pris de l'ampleur et accueille maintenant en moyenne entre 12 000 et 15 000 personnes chaque année à la plage du Saint-Déouk de Havrebert. C'est une super de belles plages, mais imaginez quand même 12 à 15 000 personnes dans le même endroit, dans un endroit qui c'est des dunes de sable. Alors c'est délicat, faut faire attention. C'est quand même un risque par rapport à la nature. Alors la protection des dunes de cette plage est importante pour les organisateurs. Et c'est le caractère éco-responsable de l'événement. Ce dernier laisse quand même des marques. C'est rendu beaucoup plus gros que c'était. Puis c'est correct comme ça. Après 40 ans, on va finir ça, mais en beauté. Il voulait finir sur un high. Il voulait pas finir quand l'activité serait complètement délaissée. Alors, c'est ce qui va arriver la semaine prochaine. En fin de semaine de la semaine prochaine.
Bon, alors ça a commencé en 1986, si mes calculs sont bons.
Oui, et puis ça, je pense que ça a permis à beaucoup de gens de réaliser qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec du sable. J'ai vu des concours semblables, même à Montréal, il y en a eu un à un moment donné au Parc La Fontaine, tout près de la station.
Oui.
Il y avait des sculpteurs invités de plusieurs endroits dans le monde. Alors, c'est un très bel événement parce que c'est hyper zen. On n'est pas pressé. On dépend de la nature. S'il fait beau et sec, ça prend beaucoup d'eau pour toujours garder le sable moite. Mais s'il pleut, c'est une autre aventure. Donc, c'était vraiment une très belle activité. Et puis, c'est sûr que je vais aller faire un petit détour par là dimanche prochain.
Oui, et j'espère que vous nous rapporterez des photos.
Bien sûr, bien sûr.
Bien, là-dessus, Yvan, merci pour votre précieuse collaboration. C'est toujours agréable de vous retrouver à tous les jeudis ou presque. Et puis, on va se retrouver jeudi, je ne sais pas quand. Mais à la rentrée, est-ce que vous confirmez votre présence?
Je confirme. Okay.
Belles vacances à vous et votre douce Marie Lalande, et notre collègue de travail bien-aimé.
Merci. Oui, je passerai. Et je vous menace même d'aller vous voir quelque part à la fin du mois d'octobre.
Ouais, ce genre de menace que je n'ai pas du tout. Merci, Yvan. Au plaisir.
Voilà.
Hasta luego. A bientôt si Dieu le veut. Hasta luego. On se reverra sous peu. On a trois mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent. Embarque-toi avec nous. Donne-moi la main, car ta place est parmi nous. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. Toi qui as peur, cache-toi derrière mon bras. Car voici l'heure, enfin d'être fier de toi. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Toi qui doutes, regarde-moi dans les yeux. Suis ma route, elle te mènera vers Dieu. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous. De réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Hey! Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent.
Hasta luego, par Hugo Frey.
On parle maintenant de camping accessible au Québec. Quand on pense au camping, on imagine souvent une tente, un feu de camp, une plage, mais aussi pour plusieurs personnes en situation de handicap, des obstacles. Mais le camping a beaucoup évolué au Québec, heureusement. Il existe aujourd'hui des endroits qui permettent à davantage de personnes de profiter du plein air. Et pour en parler, je joins avec grand plaisir Simon April, qui est responsable de la formation et de la défense des droits chez Kéroul. Bonjour Simon.
Bonjour, bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, ça va bien. Grand merci d'être avec nous pour nous parler de trois expériences selon nos envies de camping. Pour une première expérience, vous nous présentez le camping du parc à Saint-Mathieu-du-Parc.
Oui, bien c'est ça, dans le fond, on avait le goût de vous présenter les campings sur trois thématiques, justement. Puis moi-même, étant frileux, je viens de la région, puis j'étais un peu frileux de faire du camping parce que je me dis, comme vous avez dit d'entrée de jeu, beaucoup d'obstacles, peut-être beaucoup de... C'est mal adapté. Moi, j'ai une quarantaine d'années, puis je pense pas que les campings, là, 40 ans, c'est la même situation qu'aujourd'hui.
Oui.
C'est une belle alternative maintenant, parce que avec tous les hôtels, des fois, ça coûte un petit peu plus cher, puis on cherche une autre expérience, justement. Mais comme vous venez de dire, là, pour les gens qui sont pas initiés, qui veulent commencer, moi, j'avais commencé il y a quelques années. Dans le temps, ça s'appelle les tentes Utopia. Il y avait ça dans les CEPAC. Mais maintenant, il y a beaucoup d'options comme ça qui sont apparues dans les campings. Le premier, c'est ça, c'est le camping du parc. Dans le fond, c'est à Saint-Mathieu-du-Parc. C'est pas très loin de Shawinigan. Puis dans le fond, ce qu'on propose là ici, c'est beaucoup d'équipements. Ben, il y a l'équipement adapté qu'on peut louer, qu'on peut réserver d'avance. C'est le mot que je vais répéter dans les prochaines minutes souvent. Donc, il faut réserver d'avance, il faut appeler pour être sûr que l'équipement est disponible parce que oui, on a de l'équipement, mais il n'y a pas d'équipement peut-être pour des masques. Donc, il faut être vraiment sûr de ce qu'on veut vivre comme expérience.
Oui.
Il faut être vraiment sûr aussi que les aides techniques ou les choses qu'on a de besoin, ça peut être une douche, ça peut être juste une rampe d'accès pour rentrer dans le prêt à camper. Donc, il faut tout avoir ça d'avance. Souvent, les personnes handicapées sont habituées de se préparer pour ce genre de choses, pour pas avoir de mauvaises surprises. Si au camping du parc, justement, des tapis de plage pour aller à l'eau, un accès à l'eau. On a l'équipement, des terrains. Puis aussi, c'est surtout le bloc sanitaire qui est impeccable et le mégapod qui appelle. C'est une espèce de, je ne veux pas dire une cabane, mais c'est une espèce de maisonnette, dans le fond, super belle, super confortable pour une première
expérience. Oui.
On n'est pas très familier avec les insectes et les feux de camp là-dedans. Là.
Et la grosse donc, pluie aussi.
Exactement. Il y a tout ce qu'il faut. Puis, ben, quand il y a la grosse pluie, justement, ben, on peut jouer aux cartes. On peut. Là-dedans, il y a un beau balcon avec un toit, donc on peut s'abriter. Mm-hmm. La table de camping est accessible. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'une première fois, ça nous tente d'y retourner une deuxième fois.
Donc, vous l'avez expérimenté, Simon?
Moi, je ne l'ai pas expérimenté encore, mais je commence les vacances vendredi et je vous dis que c'est probablement mon coup de cœur que je vais faire cet été parce que je suis un petit peu prince dans mes choses de camping.
On a un point commun.
C'est pour ça que j'aimerais ça l'essayer comme ça pour commencer. Ensuite, ben, je vais l'entrer dans l'aventure là, pour autre chose, mais je pense que le confort avant tout. On a travaillé toute l'année, hein, c'est qu'on veut juste se reposer.
Mais oui.
Donc, je pense que c'est une belle option pour les personnes avec une situation handicapée.
Alors, pour partir en famille, vous avez une autre suggestion près de Granby?
Oui, dans le fond, il y a un camping qui s'appelle le camping Bonjour. Et le camping Bonjour, dans le fond, c'est beaucoup plus familial. Donc, il y a un parc là. Dans le fond, que les enfants qui sont en situation de handicap ou non peuvent en profiter. C'est que dans le fond, il y a des jeux musicaux aussi, donc pour se rafraîchir, pour avoir du plaisir en famille. Donc, c'est une belle suggestion. Par contre, il n'y a pas de prêt à camper, mais c'est pour les gens qui sont un petit peu plus initiés. Si vous avez votre VR, si vous avez votre tente, là, dans le fond, si vous voulez faire du vrai camping. Souvent, les gens, quand ils vont dans ce genre de camping-là, développe des initiatives voisins et il retourne à chaque année. J'avais parlé d'une dame là, dernièrement qui nous disait qu'à chaque année, il retournait avec sa famille parce que c'est facile.
Ah oui, donc, c'est juste important.
Exactement. C'est facile et on se casse la tête toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut arriver, se préparer, pouvoir faire le petit foot camping aussi, puis aussi que les enfants aient du plaisir. C'est très important parce que sinon, ils vont trouver le temps long.
Oui, oui. Les enfants, quand ils s'ennuient. Mais c'est bon l'ennui, par exemple, parce que ça amène l'imaginaire à être en mouvement, mais pas toujours quand même.
Ben, c'est ça.
Et puis, je reviens à une question que je voulais vous poser tantôt, parce que oui. Vous avez parlé de prêt à camper, mais comment vous définissez cette expression-là, prêt à camper? Ça veut dire qu'on arrive, puis tout est prêt pour camper, mais ça veut dire quoi concrètement?
Bien, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'emmener notre équipement.
OK, je comprends.
Tout est inclus. Fait que c'est moins compliqué. Les gens, ils savent à quoi s'attendre. Puis aussi, si vous allez sur le site de Kiroule, vous voyez toutes les photos de l'espèce de maisonnette que vous pouvez louer. Donc, si vous n'avez pas de surprise, vous savez, des fois, pour les personnes en fauteuil roulant, les hauteurs de lit, c'est un bon enjeu. Donc, d'avoir un lit, c'est facilement transférable. Parce que aussi, on veut profiter du moment, mais on veut être quand même autonome. Fait que ça, on a toutes ce qui nous est suggéré peut faire notre affaire. Ben, dans le fond, on vient de gagner de l'autonomie, on vient de gagner du plaisir, puis on peut profiter, dans le fond.
Oui, donc clé en main. Pour décrocher en pleine nature, là, on s'en va un petit peu plus loin sur la côte nord.
Ouais, ça, c'est pour les aventuriers un petit peu plus là, téméraires. Là. Si on s'en va justement dans le coin de la côte nord, on a le domaine du lac des Cèdres. Donc, une super de belle plage. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, Hélène, sur la côte nord.
J'en rêve. Je suis jamais allée encore.
C'est des super de beaux paysages, des grandes plages. On est en forêt. On a le goût d'être là. Et c'est sur le bord des lacs, il y a tellement de lacs dans ce coin-là, ça sent super bon, et en plus, c'est totalement accessible. Donc, on a encore les tapis de plage, on a des beaux balcons, c'est tout en bois avec des rampes d'accès, puis on a beaucoup d'équipements, donc, comme une chaise qui peut aller dans l'eau, donc ça se sent. C'est pas une chaise hypotente parce que c'est des grosses roues, mais ça aussi, c'est des grosses roues un petit peu moins gros.
Fauteuil de plage, là.
Exactement. C'est un petit peu plus facile à manipuler. Fait que ça, c'est le fun aussi. Il y a un tapis de plage pour se rendre à la plage, mais il y a un tapis de plage aussi pour circuler sur la plage. Fait que ça, c'est très intéressant aussi.
Mais oui, quand on est en fauteuil roulant, et pour les poussettes aussi, c'est merveilleux.
Moi, c'est pour ça que j'aime moins aller dans le sud maintenant. Les tapis de plage sont là, mais pas assez. Tu peux pas aller
Il y en a pas partout.
À l'eau. Non, il y en a pas partout, puis ça reste avant le plaisir, donc avant d'arriver. Ouais, souvent c'est ça. Mais pour le lac des Cèdres, là, on voit ici sur les photos, là, c'est directement à la plage, donc on peut rentrer à l'eau facilement. C'est sûr que l'eau peut être froide un petit peu, mais là, on est téméraire, on est dans le bois, on aime ça, vivre l'expérience complète du camping. Donc, je pense que c'est un très bon endroit.
Ah oui. Une fois saucé, là, c'est le bonheur total.
Hey, exactement.
Alors, vous nous parliez du camping du lac des Cèdres sur la Côte-Nord et vous disiez que c'était très bien aménagé pour les personnes en situation de handicap, notamment. Et aussi, vous disiez que dans le Sud, ce n'était pas nécessairement... Il ne faut pas gêner, je pense, hein, pour le dire.
Non, il ne faut pas gêner. C'est parce que souvent, il y a une mise en contexte qui roule quand on vient faire des évaluations. Comme dans des campings ou des hôtels, ben on fait l'évaluation complète. Quand on va dans le sud, c'est de l'auto-déclaratoire. Donc, c'est les compagnies qui décident de dire ça, c'est-tu accessible ou pas. Mais c'est-tu accessible à qui? Donc, c'est ça.
Ouais.
C'est ça la question. Et souvent, les gens vont dans le sud en pensant que bon, je n'aurai pas à me soucier de l'activité, mais il y a des coûts supplémentaires qui peuvent s'ajouter. Donc, un transport adapté, l'allocation d'équipements, tandis qu'ici, quand on parle de camping, les équipements sont déjà fournis.
Bon.
C'est pas des commentaires.
Mais il me semble qu'il faut pas avoir peur non plus de passer ces commentaires là pour ouvrir un peu les esprits. Et Simon, si on revient à nos moutons, vous avez quelques conseils avant de réserver?
Ben, avant de réserver, il faut s'y prendre d'avance. Parce que comme je disais au début, y a beaucoup de monde qui veut y aller. Les campings sont de plus en plus à la mode. Donc, faut s'y prendre d'avance. On parle de quelques semaines, mais peut-être même de quelques mois. Aussi, il faut prévoir là, s'il y a des journées de pluie, s'il y a d'autres activités à faire autour, voir s'il y a des restaurants, des petits villages dans le coin. Donc, aller visiter, je sais pas, moi, je viens du Témiscouata, puis dans le Témiscouata, on peut faire du camping, mais on peut aller aussi visiter un vignoble. Donc, il y a beaucoup d'activités qu'on peut prévoir d'avance s'il arrive quelque chose. Donc, ça, c'est quand même important. Et c'est de voir aussi si ces activités-là sont accessibles pour tout le monde.
Est-ce qu'il y en a beaucoup de campings accessibles?
Ben, il y a quand même une bonne majorité. De plus en plus, on fait affaire avec les regroupements de camping. Il y a même les pourvoiries maintenant qui sont accessibles. Donc, l'expérience, là, peut être quand même grande. Il y a même une place, je pense, en Outaouais. Je pourrais pas vous dire la place précisément, mais on offre les séjours de pêche. Donc, camping-pêche, très intéressant aussi. Donc, il y a beaucoup d'activités différentes qu'on peut faire. Mais si vous allez sur le site de Kéroul, là, dans le fond, vous cherchez dans les campings, vous allez voir toutes les activités qu'on propose et les équipements aussi. Donc, ça pourrait être
et Simon, est-ce qu'on peut se fier uniquement à la mention accessible?
Ben, c'est à partir de là que moi, je dirais appeler. Parce que ça peut être accessible pour quelqu'un et pas accessible pour quelqu'un d'autre. Mais aussi, quand on voyage, mettons, en famille, quand on parle de famille, ben moi, j'ai ma conjointe qui n'est pas une personne handicapée. Donc, ma conjointe aussi, les adaptations, ça peut peut-être même lui nuire. Donc, pour vérifier quand même, là, c'est quoi les accessibilités, c'est quoi ce qu'on a mis en place pour être accessible, mais aussi...
Comment ça, les adaptations pourraient lui nuire? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben des fois, si on peut mettre, je donne un exemple, un lavabo d'une cuisine qui est trop bas. Ma conjointe, mais elle est debout. Donc, elle va...
C'est pas adapté pour elle.
Non, puis elle va être penchée tout le long. Donc, ça sera pas... ça va être à moi de faire la vaisselle, dans le fond.
Ben, c'est une bonne affaire, peut-être.
Oui, c'est une bonne affaire.
Alors, vos vacances s'en viennent. Est-ce que c'est indiscret de vous demander, est-ce que vous avez déjà des plans? Parce que vous disiez tantôt que c'était important de réserver à l'avance.
Oui, ben justement, je vais me faire un petit... camping, mais je dois aller en France dès la semaine prochaine parce que Kirol, on travaille avec de l'évaluation d'événements, surtout en été. Puis on veut voir les bonnes pratiques qui se font en France, puis les ramener ici au Québec.
Ah
pour
oui.
Développer, là, les meilleures pratiques, effectivement.
Mais ce sera une occasion de vous réinviter à notre antenne.
Ben,
Simon April, ça a été un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes responsable de la formation et de la défense des droits chez Kirol. Et pour avoir toutes les informations, les auditeurs peuvent consulter kirol.qc.ca. Il y a un article qui présente plusieurs campings accessibles au Québec et des fiches détaillées des établissements évalués. Vous le disiez si bien tantôt. Merci Simon et à une prochaine, j'espère.
Merci beaucoup. Bonne journée.
On va écouter une nouveauté signée Lobono au retour et la chanson s'intitule Ensemble et nous serons avec Denis Martin Chabot qui viendra nous parler de son nouveau livre.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La pièce Ensemble par l'artiste montréalais Lobono accompagné de Hockey Cam.
Belle trouvaille, Maurice. Maurice Bolduc est à la mise en onde pendant les vacances de Mathieu Tessier et devant moi, un collègue oui. à qui je parle, à qui j'écris, mais on se voit rarement. C'est Denis Martin Chabot parce que moi, quand je suis pas au micro, c'est vous qui l'êtes.
C'est moi qui l'ai, oui. Puis on se parle continuellement, on se texte, on s'envoie des courriels. Puis des fois, on oublie même de se dire « Bonjour, comment vas-tu?
» On ne sait pas vivre, non, non. Mais c'est parce qu'on est comme bien ensemble, puis oui. on n'est pas obligé de passer par quatre chemins en mettant nos
Je ne travaille pas du bureau, je travaille plus de chez moi.
Oui, ouais. oui, oui. Mais aujourd'hui, vous êtes au micro oui. et vous le serez pendant tout le mois d'août à Canal M.
Tout un honneur d'avoir un micro pendant un mois. Je l'apprécie beaucoup.
Ah oui, puis ça paraît que vous aimez ça,
merci.
Du micro. Oui. Denis Martin, vous n'aimez pas que faire du micro, vous aimez aussi écrire.
Oui.
C'est votre combientième ouvrage?
C'est mon 20e ouvrage.
20e? Oui. Wow! Ouais. Je suis impressionnée.
Depuis 2003 que j'écris, que je publie, j'écris depuis bien avant
okay.
ça. Ouais.
Mais je me demandais, Denis Martin, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un jour?
Ah, c'est très simple. Puis je pense que
on
ça
est là
va...
pour parler oui, de votre livre
rentrer,
vintage, Frippé
oui,
des
ça
souvenirs.
Va rentrer directement dans tout ça. Moi, comme personne queer, comme personne gay, je...
C'est quoi la différence entre queer et gay?
Gay, c'est plus l'orientation sexuelle. Queer, c'est plus une orientation aussi politique qui va au-delà de juste être gay, c'est d'être là aussi pour nos droits. C'est plus une orientation de revendication.
D'accord.
Et je préfère dire queer à gay. Mais plus jeune, je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. Vous savez, Hélène, je lis à peu près 80 livres par année. Des fois même 100, je m'épate.
Avez-vous une technique?
Je lis beaucoup le soir avant de dormir. Alors, tout ça, je lisais, puis ouais. je me disais, j'aimerais ça lire des choses qui me parlent à moi. Et j'en trouvais pas beaucoup. J'en trouvais, mais c'était des livres français, c'était des livres américains, états-uniens, traduits.
Qu'est-ce que vous voulez dire des livres qui parlent
des
à, de vous?
Des livres qui parlent de la diversité sexuelle et de genre, d'être gay, d'être queer. Et je me suis dit, ben, je vais en écrire. Je vais écrire ce que moi, j'aimerais lire. Et ça a commencé comme ça. J'ai appris aussi de la formation pour écrire des textes de théâtre. Et,
ah oui, vous vouliez écrire du théâtre? Oui,
ben, des fois, je voulais améliorer ma façon d'écrire comme journaliste à la télé. Puis je me disais, on prend toutes sortes de formations. Et à la suite de ça, je me suis mis à écrire. Et c'est devenu des romans, c'est devenu des nouvelles, c'est devenu plein de choses.
Ouais. Et vous avez remporté des prix, notamment avec Rue Sainte-Catherine-Est, Métro Baudry.
Oui.
Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais,
ouais,
qui ont remporté le prix d'honneur
long,
du roman gay.
Ouais.
mais celui-là, c'est Vintage, mais il y a un sous-titre.
Friperie des souvenirs.
Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre-là? C'est quoi le rapport des histoires avec le titre? J'ai trois questions dans une.
Oui,
là.
Oui, ça va. C'est très simple, encore une fois. J'écrivais beaucoup de courtes nouvelles que j'ai publiées ça et là depuis à peu près une bonne vingtaine d'années. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Tu devrais peut-être regrouper ça ». Mais ça ne se regroupe pas si facilement que ça, des histoires assez disparates. Et mais c'était
disparate, mais en même temps qui ont un fil conducteur.
Qui a un fil conducteur. Mais ça, je l'ai créé par la suite. Et c'est sûr qu'en relisant ce que j'avais écrit il y a 20 ans, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai déjà écrit parce que on évolue tout le monde, les choses évoluent.
Mm-hmm.
Et donc ce que j'ai fait, j'ai dit je vais prendre un placard. C'est tellement simple. Symptomatique.
Sortir du placard.
Oui, c'est un symbole. Et je me suis dit, on va aller avec ça. Et la personne fait le ménage de son placard. Moi, j'en fais une blague parce que moi, je pourrais jamais retourner dans le placard, Hélène. Je pourrais jamais. Il y a trop de vêtements. Il n'y a plus de place pour moi là-dedans.
À chaque pas fois, fait le ménage.
À chaque fois que j'ouvre le placard, je n'ai rien à mettre sur le dos. Puis c'est vrai, je le fais encore. Alors, tout ça pour dire que j'ai regroupé toutes les histoires. J'ai essayé de leur donner un fil conducteur, un souvenir. Et les nouvelles ne pouvaient pas, ou les textes ne pouvaient pas arriver au personnage central parce qu'il y a des choses qui étaient beaucoup trop loin de lui. Mais c'est un voisin. Ah, mais c'est quelqu'un qui connaît.
Quelqu'un d'autre.
Ouais. Alors, en retrouvant le souvenir... Et aussi, c'est devenu un livre où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je dénonce maintenant dans nos communautés et dans le monde en général. Toute cette question du consentement qui... je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des difficultés à comprendre ça encore, ce mot-là. Consentement. Hein, et la masculinité toxique.
Alors, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de zone grise.
Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, on revérifie. Des fois, ça peut être non après.
Ouais.
Point barre. Puis dans ce livre-là, on y va là-dedans parce que je pense que vous l'avez lu. Vous avez
oui,
vu qu'il y a des endroits
lu.
Où
oui,
les
oui.
gens ne respectent pas le consentement et ça a des conséquences.
Les gens ne respectent pas le consentement et ceux, parce que c'est
des
questions
hommes,
d'hommes qui subissent le non-consentement, aussi l'accepte d'une certaine façon.
Oui, parce que ça fait partie, hein, c'est incroyable, ça fait partie d'un peu comment est-ce qu'on est socialisé. Parce que moi, je me suis fait dire, ben, un homme, ça pleure pas, puis un homme s'encaisse, et puis quand ça ne pleure pas, ben, tu sacs un coup de poing d'en face à la personne, ça s'arrête là. Alors, on n'est vraiment pas dans une... c'est pas une culture où on se parle entre nous, où on... Oui, les choses ont évolué, mais j'avoue qu'il y a encore du chemin à faire.
Oui, on sent que les choses ont évolué. Et vous intervenez... Est-ce que c'est vous, Denis-Martin Chabot, qui intervenez oui. directement dans vos textes?
Oui, parce que le personnage central, c'est moi. J'ai désiré que c'était moi. Parce qu'en grande partie, beaucoup de ce que je raconte, ça m'est arrivé. C'est sûr que c'est romancé, c'est de l'autofiction. Mais je disais que je me donnais...
Vous n'avez pas une vie... Vous n'avez pas eu une vie plate, en tout cas.
Certainement
c'est tout
pas.
Ce qui se passe dans le
pas,
livre.
Pas tout,
arrivé.
Tout m'est arrivé. Hein. On s'est okay. dit, il y a des gens à qui c'est arrivé. Mais certaines histoires me sont arrivées. J'ai romancé tout ça. Et je voulais aussi me permettre, une fois dans ma vie, de passer des commentaires sur ce que j'écris. Et je le fais. Là, ça, c'est un peu bizarre, oui. En italique, il y a toujours qu'à tout moment, il arrive, le personnage...
Mais moi, on dit... Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire?
Il vient passer des commentaires.
Ça, c'est du grand Denis-Martin Chabot. Il peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher. Et est-ce que c'est la première fois que vous agissez comme ça dans
oui,
vos livres?
Oui, ça sera la dernière fois. C'est juste que j'avais besoin de le faire cette fois-ci.
Oui.
Parce que j'avais besoin aussi de poser un regard sur moi-même qui a écrit ces textes-là il y a longtemps.
Oui.
Puis j'avais des choses avec lesquelles je n'étais plus d'accord avec moi-même, mais je me suis dit, écoute, le personnage, le narrateur, va intervenir puis il va le dire.
Et vous parlez d'homophobie intériorisée.
Oui.
C'est quoi exactement? C'est la première fois que j'entendais
ces
deux mots-là ensemble.
À force de subir l'homophobie sociale, à force de subir souvent la discrimination, les gens finissent par intérioriser et accepter que ça arrive comme ça. Et de se dire, c'est normal parce que je suis pas correct, parce que je suis gay, parce que je suis queer, parce que je suis lesbienne ou quoi que ce soit. Et ce qui m'arrive, donc je le mérite parce que je suis en marche. C'est comme parfois la violence envers les femmes. Il y a des femmes qui vont se dire, c'est sûr que j'ai pas été bien gentille avec mon chum. Et je ne juge
Elles
pas.
Elles vont prendre le blâme.
Elles vont prendre le blâme. Je ne juge pas, là, parce que c'est le syndrome de ce qu'on appelle de Stockholm. C'est le syndrome de la fameuse femme battue. Et l'homophobie intériorisée, c'est un gros problème qui fait que souvent, les personnes qui vivent ça se retrouvent dans la drogue, se retrouvent en dépression avec des problèmes de santé, ou encore pire que ça, c'est le sujet de mon prochain roman, c'est ce culte du corps parfait qui fait que les gens vont se mettre plein de produits dans le corps, pour de protéines, de suppléments, vont s'entraîner.
Ils vont se tuer à petit feu.
Oui, à ce qu'ils appellent
souvent.
C'est le contraire de l'anorexie, il y a un autre terme qui vient
pas. La boulimie?
Non, je pense que c'est il y a un autre terme où les gens font beaucoup trop. Et se rendre malade aussi.
Oui.
Le culte du corps parfait ou de la performance. Et les gens vont prendre des produits pour améliorer leur performance sexuelle aussi. Alors, c'est tout ce culte de vouloir être, ne pas avoir l'air de cette espèce d'homophobie, donc intériorisée, de ne pas avoir l'air gay, ne pas agir.
C'est une
gay.
Question d'estime de soi aussi,
oui,
de confiance
là-dedans.
En soi.
Oui. Et tant que temps qu'on va vivre dans un monde où c'est encore marginalisé, ça sera toujours là. Ça.
Oui, mais vous en êtes libéré d'une certaine façon. C'est ce qu'on peut comprendre en lisant votre livre. Je pense que oui,
j'en ai beaucoup souffert de ça dans ma vie parce que j'ai travaillé à Radio-Canada où je ne devais pas paraître gay, je ne devais pas le laisser savoir.
Mais qui vous disait ça?
C'était une règle qui était, comment je pourrais dire?
Qui n'était pas écrite.
Qui n'était pas écrite, qui était sous-entendue. Et donc, puis que j'ai moi-même, que je me suis imposé moi-même aussi, il faut le dire.
Ouais.
Alors, c'est clair que maintenant, je ne vis plus ça. Je suis incapable maintenant, comme je dis, de retourner à mon placard.
C'est après votre passage, vous avez longtemps travaillé à Radio-Canada, que vous êtes libéré de tout ça?
Je l'ai annoncé à un certain moment donné parce que j'en pouvais plus de vivre ça. Mais ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu très malade. J'ai fait de grandes dépressions dans ma vie.
Ah oui?
Et ça m'a rendu très, très malade. Je peux le dire, j'ai fait des tentatives de suicide parce que j'en pouvais pas de vivre comme ça. Alors, quand j'écris ce livre-là, c'est un peu, quand j'ai décidé de le publier, j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout, mais il y en a un autre qui s'en vient, qui lui est un roman très autofictif, très basé sur ma vie, et qui va aller profondément dans ce qu'on vit quand on est une personne marginalisée.
Alors, vos personnages, parce qu'il y a plusieurs histoires,
oui.
Je ne les ai pas comptées, mais je les ai toutes lues.
Il y en a 17, oui.
17.
Ouais.
Alors, ils vivent parfois des expériences difficiles, homophobie, masculinité toxique. Vous parliez tantôt du consentement, du non-consentement,
ouais.
La honte. Mais malgré tout ça, il y a de l'humour.
Oui.
C'est important pour vous de...
Oui, parce que...
D'épicer ça avec de l'humour.
Parce que je me dis, je ne voulais pas écrire un livre, les gens vont le lire, puis après ça, ils vont se jeter en bas du pont. Là,
ouais.
C'est vraiment
c'est comme
pas...
une bouée de sauvetage.
C'est une bouée de sauvetage. Puis en même temps aussi, je pense que c'est sain de rire de soi. Moi, je le fais beaucoup parce que maintenant, à l'âge que j'ai atteint l'âge du troisième âge, j'ai quand même eu 65 ans.
Mais
cette
vous avez
semaine.
L'air d'un petit garçon.
Et, merci.
Je donnerais 23 ans.
Ah, ben, c'est gentil.
Mais bonne fête quand merci. Même, c'est intéressant. Votre anniversaire,
oui,
Denis Martin.
Puis, oui, c'était dimanche. Et pour moi, rire de moi-même, l'autodérision, c'est aussi une façon de ne pas me prendre au sérieux. Parce que ça, c'est un gros défaut qu'on peut avoir souvent lorsqu'on a vécu des expériences ou quand on est une personne connue. Se prendre au sérieux, c'est...
On devient condescendant, complaisant.
Puis je pense qu'à un moment donné, ça me permet d'avoir un très bon recul sur moi-même. Ouais.
Denis Martin, dans quel état d'esprit faut lire Vintage?
Ah, faut lire avec ouverture et puis avec l'idée de... D'abord et avant tout, c'est un livre, c'est un divertissement. Hein, je veux que les gens comprennent que c'est de l'art, c'est de la littérature, et on le lit pour ce que c'est. Puis c'est sûr que oui, j'utilise la littérature, l'art, pour passer peut-être certains messages, mais ce n'est pas le but premier. Mm-hmm. Le but premier, c'est vraiment de divertir le lecteur ou la lectrice.
Avez-vous rougi en écrivant? Parce qu'il y a des passages quand même assez explicites.
Oui, j'avoue.
des histoires entre homosexuels et on les voit, en tout cas, on lit leur histoire d'amour. Ils font l'amour et c'est décrit avec moult détails.
Oui, bien, il faut dire que je me suis permis quand même, dans une séquence, j'ai écrit ce texte-là, les deux joueurs de hockey, le vestiaire, j'ai écrit ça bien avant cette série Heated Rivalry. Là.
Oui, on y pense en tout cas.
Oui, mais la scène de sexe, elle est écrite avec aucune mention de l'acte sexuel. C'est toujours des mises en jeu,
Le langage du hockey.
Oui. Et je le fais souvent ça. Parce que d'abord, ça m'amuse. Moi, ça me fait rire, donc je me dis que ça va faire rire d'autres personnes. Et aussi...
Pas toujours ça. Mais en tout cas, je vous laisse continuer.
Et puis, c'est aussi une façon de dédramatiser aussi pour la personne qui va lire, parce qu'il faut savoir que ça se passe. Et souvent, moi, je me dis, la personne queer va peut-être comprendre et savoir, et « Oh oui, j'ai connu ça. » Puis d'autres personnes, ben, je me dis, il faut peut-être qu'elle le voit. Et je me dis...
Elle le sache.
Je vais jusqu'à une certaine limite. C'est sûr que c'est surtout la violence que je pense qui est beaucoup plus difficile à prendre dans ces situations-là.
Oui. Est-ce que vous pensez que les lecteurs hétérosexuels peuvent se reconnaître dans ces histoires ou les apprécier, en tout cas?
Bien, en fait, Hélène, je vais vous dire que lorsque j'ai fait des salons du livre dans le passé, parce que beaucoup de mes livres ont ce genre de scène, la plupart des gens qui venaient faire dédicacer leurs livres étaient des femmes dans la quarantaine.
Ah oui?
Oui, c'est le plus gros de mon lectorat, ce sont des femmes.
Est-ce que ça vous étonnait?
Au départ, oui, pour m'expliquer, parce qu'il y avait quand même des séquences de tendresse, il y a quand même, c'est des trucs que beaucoup de femmes aimeraient peut-être voir leurs hommes être un peu plus gentils, tendres envers elles. Je sais pas, mais c'est quelque chose qui attire ce lectorat. Puis j'ai appris aussi que...
Mais c'est un gros cliché quand même, parce que c'est pas tous les homosexuels qui sont tendres et gentils.
Non, pas du tout. Mais pas du tout. On va s'entendre qu'un homme...
On a
homme,
plein d'exemples dans votre
un
livre.
Un homme, c'est un homme, Hélène. Un homme, c'est un homme.
Oui, puis pour la communication aussi, on passera, en tout cas, pour certains hommes, on ne peut pas généraliser non plus.
Non, généralisera pas, mais il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Mais tout ça pour dire que...
Les femmes hétérosexuelles
se reconnaissaient aussi là-dedans. Et j'ose espérer que... parler du consentement, pour certains hommes, de peut-être le voir dans un domaine très spécifique, ça va peut-être faire réfléchir, je sais pas. C'est pas le but du livre. C'est sûr qu'il y aura peut-être des gens qui vont lever un sourcil ou deux, mais moi, je me dis, je lis tellement de choses avec d'autres sortes de scènes entre personnages de sexe opposé. Je me dis, bon, OK, j'en ai vu pas mal. Je pense que je peux en mettre une coupe, moi aussi, là.
Denis Martin Chabot, vous avez évoqué votre déception à l'égard du travail de votre maison d'édition sur ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, ça a été compliqué. La mise en page a été compliquée et j'avoue que j'ai lâché prise parce que ça a été long. Et je n'aime pas la mise en page du livre. Je le dis, achetez-le pareil, là, ça se lit quand même. Mais je n'aime pas la mise en page. Je trouve qu'elle n'est pas belle, qu'elle est trop serrée.
Il y a des coquilles. Il y a encore
des coquilles parce que je me rends compte que j'en ai tellement, tellement, tellement corrigé. Puis à chaque fois que j'en corrigeais une, il y avait un autre qui s'ajoutait par la suite. Et à un moment donné, j'ai dit, ben là, je ne peux plus continuer comme ça. Ça me rendait fou. Je ne suis pas très content. Je sais que mon éditeur le sait. Et
c'était la première fois que vous collaboriez avec cet éditeur-là?
Quatrième fois que je publie là, c'est la première fois que c'est aussi compliqué que ça.
Bon, ben on souhaite que pour la suite, ce ne le soit plus.
Ouais.
Quand on regarde l'ensemble de votre œuvre, on a l'impression que vous construisez une mémoire des expériences queer au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ah, mon Dieu, c'est une grande responsabilité. Je construis une mémoire de ce que moi j'ai connu, ce que moi j'ai vu et ce que ma compréhension de l'inconscient collectif de la communauté a connu. Je n'ai aucune prétention de dire que je raconte l'histoire. D'abord, ce sont des romans. Il faut dire que j'ai écrit des biographies aussi avec des personnalités de la communauté, oui. Des communautés LGBT. Oui.
Et pas que.
Et pas que. Oui, oui, que la mairesse de
Mégantic,
Mme Bois-Laroche. Mais bon, je pense que raconter nos histoires d'une certaine façon, des romancer et tout ça, c'est peut-être une façon de, oui, d'établir ce qui a existé, mais d'une façon romantique. Je ne suis pas historien.
Mais vous êtes une personne engagée.
Oui, oui.
Est-ce que vous diriez militante aussi?
Ben oui, militante, oui. Je pense qu'on ne peut pas avoir une orientation sexuelle qui n'est pas dans la norme et ne pas devenir militant. Parce que le simple fait de ne pas être dans la norme fait de moi une personne militante. Dès que j'ouvre la bouche et que je parle de ce que je vis, c'est perçu comme étant de la militance. Moi, non, je ne vois pas comme ça, mais je comprends que pour plusieurs, c'est comme ça.
Fierté Montréal commence demain. Est-ce que vous allez y participer?
Ah oui, alors j'annonce que je suis dans non autre chapeau. Je suis directeur artistique de Fierté littéraire, qui est un organisme qui fait des activités littéraires pendant Fierté Montréal. Et à partir de demain, on a des activités tout le week-end à 5 heures le soir au parc qui appelle la Place du Village, en face du Mado sur Sainte-Catherine-Est.
Oui, là où vous avez lancé votre livre, au Cabaret Mado.
Au Cabaret Mado. Et donc, on va être là jusqu'à lundi. Et il y a toujours mon événement annuel, qui est le Grand TFH littéraire, où des personnes de la communauté, des artistes de la communauté viennent lire et ils se mettent littéralement à nu.
Oui. Pour vrai?
Pour vrai.
OK, il y a vraiment un effeuillage,
un effeuillage, et c'est une expérience assez incroyable. Je ne pensais pas que ça durait longtemps comme ça. Je pense que c'est ma 7e édition que je fais cette année. Et les gens frappent à la porte pour y participer.
Bon, c'est bon signe.
Ben oui.
Alors, vous allez être très occupé au cours des prochains jours.
Oui.
Vous allez être aussi à la barre de Au quotidien à partir de lundi. Denis Martin Chabot, un homme aux multiples talents. Et je rappelle le titre de votre livre, Vintage, friperie des souvenirs. Merci beaucoup, Denis
Merci
Martin,
beaucoup.
Chez Crescendo.
Chez Crescendo.
Sur ma voiture et sur toutes mes courbatures, l'aube trace au crayon de bois multiples formes qui se déploient. Ouvrir l'œil, bouger l'orteil, une prière au soleil. Ainsi la fin de la dormance et le début de l'espérance. Je tire mon corps à la verticale, des talons jusqu'au cervical. Je m'appuie sur la portière et sur mon café d'hier. Je m'accroche à l'importance de ma tasse et de son anse. Je simule un peu d'amplitude. La vie est belle mais parfois rude. Je simule un peu d'amplitude. Je simule un peu d'amplitude. Je simule un peu d'amplitude. Tu as marqué bien comme il faut les parois de mon cerveau. Combien en fut cet escargot à décoder les signaux. Le silence a ses limites, des conséquences sur la suite. L'amour requiert des aptitudes, les miennes sont en désuétude.
L'amour requiert des aptitudes, les miennes sont.
Le temps emporte dans sa caisse des années à toute vitesse, laissant pour note de service le mieux aimé sans artifice. Tu n'es plus là quand ton absence se glace le sang quand j'y pense. Quand forcément la nuit tombe sur ma déroute, profonde la vie est belle mais parfois rude.
Quand forcément la nuit tombe, forcément
je parle peu. La vie est belle mais parfois rude.
Dormir dans l'auto par Daniel Bélanger.
Oui, je vous le disais tantôt, c'est la Journée internationale de l'amitié aujourd'hui. Et Denis Martin Chabot recevra quelqu'un de parrainage civique lundi pour parler de cette amitié si précieuse et si importante pour cet organisme entre les marraines et les filleules ou les parrains et les filleules. Alors, il reste quelques secondes pour vous dire ben, que j'ai apprécié passer cette émission en votre compagnie. Merci d'avoir été à l'écoute. En fin de semaine, il y a plein de choses qui s'en viennent. L'Omium Banque nationale qui s'ouvre demain. Fierté Montréal, on en a parlé. Oshiaga, qui débute demain. Et aussi, ben, plein de choses. Moi, je m'en vais en vacances et je vous laisse avec une belle chanson. C'est mon collègue Jean-Sébastien Laliberté qui m'a proposé cette version. À bientôt.
Some of you young folks been saying to me, hey, Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.